franceinter.fr.
Bonjour à tous. Émission spéciale en ce jour de premier tour de la présidentielle. Nous vous proposons de réécouter quelques-uns des reportages de la série Allons en France, tels qu'ils ont été diffusés depuis 2 mois dans la matinale de Patrick Cohen. Pendant des semaines, les reporters de la rédaction de France Inter se sont immergés au cœur de la société française. Il s'agissait, loin des tribunes partisanes, des turbulences de campagne liées aux affaires ou de l'analyse des programmes dont nous avons rendu compte par ailleurs, d'aller à la rencontre des Français dans leur cadre de vie quotidien pour avoir une photographie de leur état d'esprit avant l'échéance capitale que représente le scrutin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Pour commencer, nous vous emmenons avec Béatrice Duguet à 8000 km de la métropole, à Mayotte très précisément. Mayotte, dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, est depuis 6 ans le 101e département français. Pour autant, ses quelques 250 000 habitants se sentent très très loin des préoccupations hexagonales. Pendant la campagne électorale, le souci majeur des Mahorais, c'était tout simplement le manque d'eau et les très lourdes contraintes qu'il impose à la population, à l'instar d'Ibrahima Toumbou, le premier Mahorais rencontré par Béatrice Duguet.
Il n'y a pas encore d'eau. On vient tous chercher de l'eau ici.
Des robinets, là?
Ouais, ils sont potables.
C'est un peu la corvée. On s'habitue tout à petit. Franchement, on n'a pas trop le choix.
Dans un département, c'est insensé, c'est inacceptable, mais on n'a pas trop le choix.
On fait partie des oubliés.
On est un peu dépassé par les événements, en fait, que les élus ne se bougent pas.
Oui, effectivement, d'aller vers la mairie. Ouais.
Là, c'est l'hôtel des villes des Pénitiers. C'est France Inter. D'accord.
Bonjour. Fatima Saindou, adjointe au maire chargée de la sécurité dans la commune de Kanikeli.
Ici, c'est la France. On a du mal à concevoir qu'un département français soit dans cette situation-là.
Malheureusement, c'est la France de l'autre bout du monde. C'est de l'eau qu'on paye. Et puis, les moyens ont été mis en place en fonction de la population. Aujourd'hui, la population a doublé ou a triplé. Donc, l'État, même s'il fait, il met les moyens, la collectivité fait ses efforts. Mais ceux qui passent par les mailles de filet, on ne sait pas combien ils sont. Ils sont là, ils consomment de l'eau.
Ce que vous dites, c'est que c'est une des conséquences de la situation de migration que vit Mayotte, en fait.
Ça, on le sait parfaitement. Donc, on n'a pas d'eau. Il ne faut pas prier qu'il y ait des cyclones, mais si c'est ce qui nous apporterait de l'eau.
Merci bien.
Eh ouais.
Ah. Oh. Elle ne coule pas encore.
Là, on est chez vous, Monsieur Toumbou.
Oui.
Toujours pas d'eau au robinet ?
Non, toujours pas d'eau. On se lève le matin avant qu'ils ferment l'eau. Et toutes les bassines vides, on stocke jusqu'à la réouverture.
Je ne sais pas si vous avez les toilettes dans la maison, mais c'est aussi un souci sanitaire.
Oui.
Hein.
C'est un gros souci sanitaire, oui, parce qu'en fait, il faut verser de l'eau. Des fois, on verse et ça ne s'évacue pas, il faut remettre. Enfin, on en gaspille de l'eau.
Il arrive.
Ouais, voilà, il arrive.
Elle n'est pas claire.
Pour pouvoir reprendre les tâches ménagères.
Voilà. Et laver les habits. Là, la vie va reprendre un petit peu normalement. Pendant une journée, jusqu'à demain.
24 heures d'eau tous les deux jours et des soucis sanitaires qui commencent.
Qui nous amène chez le docteur Maillard, médecin libéral de la commune de Chirongui.
Le problème, bien sûr, effectivement, c'est que l'eau stagne dans les conduites, donc elle n'est pas potable. Donc on se retrouve avec des problèmes de gastro-entérite. On se retrouve avec des problèmes cutanés qui ont donc plusieurs origines. L'incapacité de pouvoir se laver quotidiennement. Cette coutume d'aller plus dans l'eau pour essayer de se soigner. Donc on se retrouve avec notamment ce qu'on appelle les impétigos, donc des staphylococcides de la peau. Moi, ce qui me choque le plus à l'heure actuelle, c'est les problèmes des PMI, hein, protection maternelle infantile, qui sont en grève constamment parce qu'ils n'ont plus d'eau, ils ne peuvent pas soigner décemment, ils ne peuvent pas vacciner. Donc on se retrouve avec des retards vaccinaux sur les enfants. Si vous voulez, voilà, le problème d'eau n'est qu'un aspect, c'est la partie visible de l'iceberg en fin de compte.
Monsieur Toumbou,
oui.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être pris au sérieux ?
Non, je crois pas. Avec les mesures qui sont prises pour 2018 et 2020, Je pense pas que c'est sérieux. Si on continue comme ça, en 2020, il n'y aura plus personne ici. Les retenues et les forages vont être faits pour quoi ? On n'aura plus d'animaux, on va peut-être se manger entre nous. Je veux savoir.
Merci monsieur Tondou de nous avoir reçus chez vous, en espérant que la pluie tombe. Il fait très humide.
Voilà, mais il pleut pas. Ouais.
Retour en métropole, en Provence, pour l'illustration d'un phénomène désormais bien décrit par les sociologues, le déplacement des centres de gravité des villes moyennes. Ainsi, à Cavaillon, dans le Vaucluse, les 26 000 habitants voient les commerces du centre de la capitale du Melon fermés. Et l'activité commerciale se déplacer vers les 5 supermarchés périphériques qui deviennent ainsi les endroits où l'on se retrouve. Et ce, dès le matin, avant même l'ouverture des boutiques. Ce matin de février, Philippe Randet était à 8h30 devant l'une de ses galeries commerciales.
Bonjour.
Bonjour, Daniel.
Le supermarché n'a pas encore ouvert, vous êtes déjà là avec votre sac?
Ah ouais, pour prêt à aller acheter le pain, les commissions journalières, quoi. On profite des promotions parce que bon, c'est vrai que vous allez dans des petits magasins de proximité, c'est vraiment très cher parce qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça m'étonnerait que tous les gens mangent 5 fruits et légumes.
Hein. Vous venez souvent?
Ah oui, aller dans Cavaillon, de se garer, les parcs-mètres, et ici et là, les gens fuient la ville. Après, c'est pour nous, nous sommes une dizaine qu'on se rencontre tous les matins. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai un ami là que ça fait 40 ans qu'on se connaît.
Bonjour, bonjour. En principe, quand je mange à la maison, je viens tous les jours. Ah oui, aujourd'hui, j'ai pris que le journal. Je vais manger au restaurant. Là.
Ah Dieu.
Je suis seul. Alors.
Je vous laisse faire vos courses. Oui. Alors que Daniel est parti acheter du poisson, des dizaines de clients avec leur caddie déambulent dans la galerie marchande. À gauche, un pressing, un bureau de tabac. À droite, une boutique de chaussures de sport. Et au milieu, un banc où il est difficile de trouver une place. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vrai, en règle générale, le banc, il est toujours pris. J'ai connu le centre-ville de Cavaillon il y a une trentaine d'années, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de magasins, des magasins assez riches. Maintenant, il n'y a plus personne dans le centre-ville de Cavaillon.
On est en train de critiquer, mais la faute, c'est nous, oui. Parce qu'on ne devrait pas venir faire nos commissions ici.
Tout à fait, mais c'est pratique d'avoir tout sous la main.
La population est de plus en plus pauvre à l'intérieur de la ville.
Oui, mais attendez, il y a 30 ans, les gens qui avaient des exploitations agricoles, ils avaient un pouvoir d'achat énorme. Ces gens sont partis, les enfants ne reprennent pas forcément les exploitations. Il y a quand même aussi une mixité qui n'est pas toujours parfaite. Moi, je n'ai pas envie de venir à Cavaillon le soir.
Et pourtant, il y a 50 caméras de vidéosurveillance. L'insécurité a été divisée par deux.
Il y a quand même des agressions, tu es d'accord, Jackie ?
Comme dans toutes les villes.
J'ai peur, moi, si je vais le soir toute seule au cinéma, de traverser la ville et de me faire agresser.
Ça vous est déjà arrivé ?
Non.
Merci à vous de nous avoir interrogés.
De l'autre côté du supermarché, entrée sud, voilà le seul bar de la galerie marchande. Ça s'appelle Le Petit Creux. Le patron est derrière le comptoir.
Ben, du jour, 10,90 €. Rôti de porc à la crème d'ail, c'est beaucoup moins cher qu'à le centre-ville.
On entend les gens beaucoup parler autour de nous. Tout le monde parle de politique ici.
Ah oui, c'est le sujet principal. Hein.
Bonjour, je peux m'installer ?
Oui, mais bien sûr, oui, oui, oui.
Vous êtes dur, j'ai l'impression, avec les hommes politiques.
Assez dur, assez dur. Il y a des gens qui sont licenciés, même ici, dans le Vaucluse. Hein. Vous avez des gens qui ont été licenciés, qui sont à la rue. Hein. Devant l'idole, là, t'as vu, hier, il y avait une femme, là, et elle a été licenciée. Le propriétaire l'a foutu dehors et dans sa voiture. Hein. C'est pas normal.
Vous avez l'impression que les hommes politiques ne vous écoutent pas ?
Personne ne nous écoute. Pourquoi aux États-Unis, Trump, là, il fait le vide ? Et ici, ça va arriver pareil.
On sent du dépit chez ces habitués du centre commercial.
Le sentiment d'être délaissé, évidemment, mais pas pour tout le monde. Damien est en train de mettre ses courses dans le caddie. Vous venez d'où ?
De Gordes, c'est à 10 bornes d'ici.
Vous avez l'habitude de venir dans ce centre commercial ?
Oui, c'est vrai que moi, j'aime bien les hypermarchés. Pour moi, c'est un peu les nouvelles agora de vie. Des fois, je vais même dans les hyper sans rien acheter, juste comme ça, pour voir les gens. Il faut que les gens se ressortent de chez eux. Hein.
Vous sentez les gens repliés sur eux-mêmes ?
Mais oui, je le sens, forcément. Après, politiquement, il y a des politiques officielles, mais il faut que les gens comprennent aussi que c'est eux qui font la vie de la cité. Donc, c'est effectivement à eux de se prendre en main un petit peu. C'est devenu des métiers, la politique. Donc, c'est vrai que les gens se sentent complètement déconnectés d'un truc. Ou au contraire, hein, ils devraient comprendre qu'ils sont directement concernés. Mais c'est vrai que les gens qui nous représentent ont l'air de nous représenter de moins en moins.
À l'écart des centres urbains ou périurbains, les agriculteurs ont cette année encore l'impression que la campagne électorale oublie la campagne tout court. Pourtant, ils traversent une crise profonde. La profession a enregistré en 2014 un suicide tous les deux jours. C'est la troisième cause de mortalité, la huitième seulement pour l'ensemble de la population. Et depuis le début de la crise laitière fin 2015, le taux de cessation d'activité chez les producteurs a été multiplié par deux. Géraldine Allot s'est rendue dans le Berry, à Selles-sur-Naon, où Élodie Berthaud et son père Christophe exploitent une ferme. Une ferme moderne où 130 vaches produisent un lait qui suffit pourtant à peine à les nourrir.
Arrête, calme-toi. Voilà. Ici, c'est la salle de traite complètement automatisée. C'est un robot qui traite les vaches.
Oui.
Donc là, sur votre écran d'ordinateur, il y a plein de petits curseurs avec des paramètres différents. Le lait produit, la température, le nombre de traites.
Oui, c'est le suivi voilà, de notre troupeau. Parce qu'une vache qui va bien, eh ben, c'est une vache qui produira plus de lait. C'est aussi une vache au niveau fertilité qui aura une meilleure fertilité. Et en fait, tout s'ensuit, quoi. Et il y a des moments, papa me rappelle un peu à l'ordre en me disant « Aujourd'hui, t'es chef d'entreprise, donc il faut que tu arrives à conjuguer ton métier au niveau de l'élevage, mais aussi à la fois l'économique. »
Le prix du lait aujourd'hui, c'est combien ?
Il y a une laiterie, c'est un tout petit peu plus de 30 centimes, et l'autre laiterie, c'est 31 centimes. Mais vraiment, pour que ce soit pas trop mal, on va dire qu'on couvre, pas forcément qu'on s'enrichisse non plus, mais qu'on couvre tout, faudrait minimum du 34. On est la seule profession, je pense, en France, à vivre à perte ou à vendre à perte nos produits.
Bonjour.
Alors voici Yannick. Yannick, c'est notre salarié donc depuis 15 ans sur l'exploitation.
Vous avez connu le grand-père d'Élodie,
oui.
Le père d'Élodie,
oui.
Et maintenant vous travaillez avec Élodie.
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît autant ?
Je pense que c'est le rapport homme-animal. Quand on s'intéresse aux animaux, on ne fait jamais la même chose. On travaille avec du vivant, donc c'est quelque chose qui est prenant. L'élevage traverse une crise financière, parce qu'on n'arrive pas à vivre de notre métier. Mais la passion prend le dessus sur l'aspect financier.
Là, on va voir votre père.
Mais j'essaye de le trouver. J'essaye.
Vous êtes le père d'Élodie. Vous êtes installé en 1987. Est-ce que vous vivez mieux aujourd'hui qu'avant ?
Physiquement, oui. Il n'y a rien à comparer, hein, parce qu'on n'avait pas de matériel. Hein. Beaucoup de choses étaient faites manuellement. Hein. C'était que physique. Bon, là, maintenant, le physique est moins fatigué. Par contre, le psychisme, alors là, il prend. Hein. Parce qu'il faut qu'on soit, comment vous dire, secrétaire, comptable, éleveur, agronome. Il faut qu'on soit tout. Et puis les difficultés du moment, parce que c'est la galère actuelle, c'est cette trésorerie. Quoi. On boucle difficilement nos mois, parce que nos prix ne sont pas à la hauteur. Quoi.
Et du coup, à la fin du mois, il vous reste combien ?
Ah, notre salaire ! Élodie et moi, on est à 1000 euros par mois. Mais vous savez que l'agriculture, on vit souvent pour la gloire, hein. On vit pas pour le salaire.
Pour la gloire, donc Géraldine, qu'attendent ces agriculteurs du prochain président de la République ?
Pas grand-chose en fait, tant le fossé est grand, disent-ils entre eux et les candidats. La campagne présidentielle, elle vous intéresse un peu ? Il y a des candidats qui vous intéressent ?
On est à l'écoute, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. On est un peu dépité de voir justement cette notion de l'argent, là. Nos hommes politiques sont vraiment dans une bulle. C'est de la monarchie, quoi. C'est même pas un fossé. C'est deux mondes qui vivent en parallèle. Des emplois fictifs, des indemnités ou des salaires qui sont pas fondés par le coût réel de la vie. Il y a quelque chose qui colle pas.
Vous allez voter pour qui, vous savez ?
Je ne sais pas encore. Sincèrement, je ne sais pas encore. Je souhaite une chose, c'est que le blanc soit un bulletin exprimé, reconnu. Ça aussi, j'ai bon espoir que ce suffrage-là soit considéré.
Quelle place pour la culture dans la campagne électorale ? La question est peu traitée par les candidats eux-mêmes, tant en meeting que dans leurs entretiens. Pourtant, comme facteur de lien social, ce fameux « vivre ensemble », si à la mode, elle devrait tenir un rôle éminent. Et les collectivités locales sont souvent aux prises avec des difficultés financières, d'où des arbitrages budgétaires qui peuvent mettre en péril l'existence même d'activités culturelles. Ainsi à Creil, 35 000 habitants dans l'Oise, au nord de Paris, où la faïencerie, le théâtre de la ville, reprend tout juste une activité normale après plusieurs semaines de chômage technique. Claire Chaudière y a rencontré Laurence, la responsable de l'accueil du public.
Vous êtes déjà venue ?
Oui.
Vous connaissez
c'est la règle. On ne parle pas pendant, on parle à la fin. Par contre, on a le droit de rigoler et on a même le droit de danser dans ce spectacle-là.
On les aide à avancer dans leur parcours de vie, dans leur construction de citoyen.
C'est une goutte, mais je pense que c'est une goutte qui laisse des traces. Et ça, moi, ça me met toujours du baume au cœur, même dans les journées les plus difficiles.
Sur un territoire comme Creil, c'est un puissant fond, parce qu'il y a toujours des gens à aller récupérer, à amener dans ce lieu. Jean-Jacques Burelier, secrétaire général au Théâtre de la Faïencerie de Creil. La culture est mise en avant quand on traverse des événements dramatiques. Et puis, dans les faits, c'est un peu plus difficile. Là, on l'a vu, avec ces baisses de subventions qui nous ont très fortement touchés.
Je jette un œil sur le programme cinéma et puis voilà.
2 mois de chômage technique pour l'ensemble de l'équipe. La voilure a été réduite et c'est pour ça que, pour compenser, on a augmenté l'offre cinéma. Je trouve que la place de la culture, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Je sais pas, j'ai pas entendu de candidats faire des propositions. Vous en avez entendu parler, vous? Moi pas.
Trois bureaux plus loin, voici Imane, la Benjamine de l'équipe, en service civique au théâtre depuis le mois dernier.
On fait un truc tous ensemble, tu vois. J'ai 19 ans. C'est un peu ma mission à moi de ramener le public de cité, le public jeune, parce que moi je viens de ce public-là. Je sais ce que c'est. On se dit non, mais de toute façon ils veulent pas. Alors qu'on n'en sait rien en fait, on leur a pas posé la question. On n'a pas parlé avec eux comme à des personnes normales. J'ai fait du théâtre en première grâce à une de mes profs qui venait beaucoup à la faïencerie. J'adore ça. J'ai l'impression que c'est la seule chose qui dépasse les limites et les barrières. À partir du moment où on arrive à accéder à la culture, on s'ouvre à des opportunités énormes parce qu'on voit plus du tout les choses de la même manière, donc on s'interdit moins de choses.
Claire, vous nous invitez à sortir du théâtre pour nous retrouver sur les marches de la faïencerie.
À la rencontre de spectateurs, cette fois d'un côté les habitués, de l'autre ceux qui passent devant le théâtre, mais sans forcément s'y arrêter.
Je passe devant tous les jours et...
Vous allez souvent voir des spectacles ici ?
Jamais. C'est une salle que j'ai très très peu fréquentée. Les rares fois où je suis venu, je me suis pas senti forcément à l'aise. Inconsciemment, je me dis peut-être que c'est pas fait pour moi et pourtant j'ai déjà pris des bonnes résolutions. Je me suis dit tiens, il faudrait que j'y aille. Mais du coup, il y a un peu une fracture entre une culture populaire et une peut-être un peu plus élitiste. Et tout le monde se complaît à la voir s'agrandir. Les écoles, que ce soit collège ou lycée, il y a de moins en moins de mixité sociale.
Contrôlez l'intérieur du sac, s'il vous plaît.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir ?
Je vais voir un spectacle avec le petit resto là, je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Vous savez, avec mon épouse, on cherche tous les trucs gratuits. On n'a pas des finances extraordinaires. Bon, ce soir on paie.
Est-ce que ça coûte cher la culture ?
Oui, ça coûte cher. On a un abonnement, on doit payer les places autour de 17 euros.
On rentre dans la salle ?
Par l'entrée par laquelle on ne rentre pas d'habitude. Là, on est sur la scène.
Ici, sur scène, il y a un livre de cuisine.
Performance assez originale où le public est amené à cuisiner en fait sur scène. Ça fait le lien entre nourriture et démocratie.
Personne ne peut dire où cette recette nous mènera.
C'est incroyable, c'est formidable. Il ne faut surtout pas faire une sous-culture à Creil. Moi, j'ai peur que ça ferme. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Paris. Donc ils n'iront plus au théâtre. Les politiques ne se rendent pas compte de ça. Ils sont ailleurs. Quand j'entends dire qu'il faut travailler plus, mais il faudrait faire de la civilisation des loisirs, partager le travail, puis créer d'autres activités, de loisirs notamment.
C'est un autre sujet dont on a assez peu parlé durant cette campagne électorale, c'est l'amélioration du sort des handicapés. Selon l'INSEE, 26,4% des Français, soit près de 12 millions de personnes, vivent avec une incapacité, une limitation d'activité ou bien un handicap. Un réservoir d'électeurs considérable. Pourtant, eux aussi ont parfois l'impression d'être des oubliés de la politique. Comme on va le voir avec le reportage de Delphine Evenou, leur situation est très contrastée en fonction notamment de leur lieu de résidence. Delphine nous emmène d'abord à Reims, chez Bruno, tétraplégique.
Bon, je vais vous emmener faire un petit tour, on va aller en centre-ville. Alors, comme je disais, moi, ça fait 3 ans que j'habite à Reims, et c'est vrai que ça fait 1 an, là, je vois qu'il y a un effort phénoménal qui est en train de se réaliser. C'est le transport collectif. On a plus d'autonomie, hein. On va aller chercher le tram. C'est ce qui est pratique, c'est que pour me rendre à l'hôpital, je prends pas le VSL, véhicule léger sanitaire. C'est comme une voiture d'ambulance. Bah, je fais une économie à la sécurité sociale, 150 euros. Hein.
Il y a une loi qui a été votée en 2005, une loi sur le handicap pour favoriser l'accessibilité partout, dans les lieux, les transports publics. Quel bilan là vous en tirez pour vous ?
Alors, on est quand même déçus. La loi n'a pas été quand même appliquée à 100%. C'est d'une certaine manière une une trahison. Il faut changer toute la société. Il n'y a plus de boulot pour la jeunesse. S'il n'y a plus de boulot, il y a moins de rentrée d'argent. Si on ne fait plus de travaux d'investissement, d'aménagement, on va avoir plus de difficultés à ressortir de chez nous.
L'emploi, c'est le point noir pour de nombreuses personnes handicapées, Delphine.
Un taux de chômage de 18%. Alors quittons Reims et ses 180 000 habitants pour aller dans l'Aisne à la rencontre de Pierre-Marie en fauteuil depuis 17 ans et sans emploi depuis 4 ans.
Bienvenue à Soissons. Doucement.
Il n'est pas méchant et il ne ment pas.
Les obstacles sont multipliés par 26. Depuis que je suis en fauteuil, j'ai occupé 2 emplois. Mon corps n'a pas suivi. Ce que l'on demande à l'heure d'aujourd'hui, un handicapé, c'est d'être aussi performant qu'invalide. J'ai envoyé énormément de CV. Dans la mesure où une entreprise n'est pas accessible, comment on peut se présenter à quelqu'un si on ne peut pas monter de marche?
Sage, hein, on revient.
Bon, voilà, on arrive à la mairie, au service état civil. Le monte-charge qui est là-bas, il est en panne depuis 17 ans, donc j'ai fait refaire ma carte d'identité 2 fois. La dernière fois, c'est un agent qui est sorti, qui m'a pris mes empreintes dehors, il faisait 3 degrés.
Et qu'est-ce que vous attendez du futur président? Qu'est-ce qui changerait votre vie?
Déjà, effectivement, il y a l'accès à tout ce qui est la ville, à tout ce qui est espace public, parce qu'après, forcément, l'emploi va en découler. Entre les trimestres que j'ai été en convalescence, les trimestres où j'ai dû chercher du travail, non, clairement, j'aurai pas de retraite. Et j'ose pas l'imaginer pour le moment.
Direction maintenant Laon, la préfecture de l'Aisne. On est donc dans les Hauts-de-France. Et on va à la rencontre de Frédéric. Il est aveugle depuis l'âge de 10 ans.
Bonjour, monsieur Lambert.
Bonjour, madame.
On parle pas beaucoup de handicap hein, cette année.
Non, c'est vrai. Il faut des jeunes au pouvoir. Il faudrait un président qui ait toutes les idées mélangées et puis qui se dise on va en faire pour tout le monde, quoi.
Vous avez étudié les propositions des candidats en matière de handicap?
Non. Et bon, je sais très bien que quel que soit le candidat, je crois qu'il n'en tiendra pas compte. Nous, mobilité réduite, on n'est pas écoutés. Ce qu'il faudrait faire dans certaines villes, mettre les usagers en situation de handicap, qui prennent un fauteuil, nous leur mettre un bandeau sous les yeux, pour voir comment ça fait, pour qu'ils se rendent compte.
Cattarella, épouse Béron Fernand, 137. À voter.
Le premier parti de France pourrait bien être au soir de ce premier tour, celui des abstentionnistes. Claire Chaudière s'est rendue à Forbach en Moselle. En 2012 déjà, un tiers des électeurs avaient boudé les urnes et Marine Le Pen y avait recueilli 26% des suffrages, contre un peu moins de 18% pour l'ensemble du territoire. Cette année encore, la perspective de voter n'enthousiasme guère dans l'ancienne métropole du bassin houillé. Claire a commencé son reportage au boulodrome du Kreuzberg.
Voilà.
Bonjour.
Enchanté. Il y avait des agents de maîtrise qui habitaient ici. Les ouvriers des agents de maîtrise qui avaient leur jardin. C'était la belle époque, quoi.
C'est plus la belle époque aujourd'hui?
C'est plus dur.
J'ai 68 ans et je vais maintenant travailler pour payer les études à mon petit-fils parce que ses parents n'arrivent pas à suivre. Voilà où on va. Les petits deviennent de plus en plus pauvres.
Et eux, ils s'enrichissent sur notre dos. Allez voter. Si on pouvait déchirer la carte d'électeur, déchirer la carte et la mettre dans l'urne. C'est ce que je vais faire. J'ai toujours été de droite. Maintenant, je ne suis plus de nulle part. Je suis dégoûté.
Ça ne m'intéresse plus. C'est...
Oh, t'arrives toujours plus, toi? Parle bien.
Bonjour, merci beaucoup.
La grande tour qu'on voit qui dépasse là-bas, c'est encore un puits allemand, puits de mine. Il y a 40 nationalités qui ont travaillé hier. Très forte communauté maghrébine, polonaise, italienne. La mine, elle absorbait tout le monde. Ce qui aurait pu calmer les choses, c'est le travail. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas vraiment activé une réindustrialisation derrière. Ça s'est enlisé. Et puis à un moment, on entend, mais comment ça se fait que sa fille, elle est embauchée à la com d'aglo? Ah tiens, il est à la mairie, lui. Pourquoi pas nous? Les promesses, on n'en veut plus. Les gens, ils en veulent plus.
Claire, d'une génération à l'autre, le désenchantement est-il le même?
Eh bien, entre 2 stands de vêtements sur le marché de Forbach, cette fois, voici 2 jeunes actifs, petits-fils de mineurs.
On habite dans un trou, il n'y a plus personne pour nous aider. Encore heureusement qu'il y a l'Allemagne à côté pour s'évader un peu. Moi, j'ai voté la dernière présidentielle. Je pensais que ça allait changer quelque chose, j'ai voté Hollande, mais je pensais que son discours était correct hein, sur l'intégration, parce que c'est vrai que nous, on est d'origine musulmane. On est algérien, trouver du boulot, franchement, c'est très très dur. Hein. Moi, je vais de Motaterim et je m'appelle Sofiane. Encore, je vous dis pas mon nom de famille parce que... C'est sérieusement, c'est vrai. Tu vas voter, toi?
Voter qui? Gauche, droite, pour moi, ils sont tous pareils. Non, moi, personnellement, je travaille en assurance. Je m'appelle Bilal. Mon grand-père, il est mort à cause de la silicose. Il a travaillé 30 ans au fond de la mine. Et aujourd'hui, on est pointé du doigt. On est pointé du doigt.
Bilal, visiblement encore un peu indécis. Sandrine et Julie, elles, savent déjà qu'elles n'iront pas voter le 23 avril prochain. Génération 1980, études médiation culturelle pour l'une, école de commerce pour l'autre.
C'est vous?
C'est moi.
Enchantée.
J'ai jeté l'éponge. C'est la première année où j'irai pas voter parce que les autres années, je me forçais à y aller quand même. Là, maintenant, on en finit. Là, je vois que c'est cause perdue, c'est une course au pouvoir. Ils n'ont rien à faire des réalités de qui se passent vraiment à notre niveau. Je préfère maintenant faire comme si la politique n'existe pas. Et se consacrer à son quartier, faire des choses à son échelle et de ne plus compter au-dessus, quoi.
Moi, ça me rend triste parce que je pense à l'avenir, quoi. On ne veut pas se contenter de ce qu'on nous propose. Mais le fait de ne pas y aller, ce n'est pas une solution non plus, puisqu'en fait, on cautionne également ce système. Donc, on est vraiment dans une impasse.
On fait quelques pas?
Oui, bien sûr.
Quartier du Bro à présent et ses petits immeubles HLM. Rendez-vous fixé avec Guy Leitner, c'est un élu local, à gauche, mais sans étiquette, qui avoue avoir énormément de mal à digérer les bons résultats du Front National ici depuis plusieurs années.
J'ai du mal à comprendre. La politique tous pourrie, on est inclus dedans. Même le plus petit, on est compris dans toutes ces affaires. Et après, les gens, je peux les comprendre. Je pense qu'il faut penser la société différemment. J'ai peut-être qu'un CAP de cuisinier, mais bon, on sait penser. Il faut avoir la bonne, la juste révolte.
À Eos, dans le Gers, on s'abstient plutôt moins que dans le reste du pays. Peut-être finalement parce que l'identité locale y est forte et que les Élusates, les habitants de cette capitale de l'Armagnac, se sentent bien chez eux. Le bonheur semble être dans le pré, chasse, pêche et rugby semblent être les préoccupations dominantes en assurant tout naturellement la cohésion sociale de la ville. Justement, quand Philippe Rendet y est passé, le club local qui évolue en honneur, le 6e niveau national, s'apprêtait à recevoir les voisins de Condom. Causerie d'avant-match.
Hey Jojo, on va la baisser la tête ou pas? T'es chez toi là, tu vas te faire marcher dessus! On va s'y foutre minable! Mais on va pas prendre une trempe, on va les battre ces types! Oh! Ça y est?
Ouais!
Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Magési, je suis agriculteur. J'ai pris l'entraînement de l'équipe des Hauts cette année.
Vous avez fait un discours très offensif.
Oui, c'est un match important pour nous, c'est un derby. Ici, dans notre département à vocation agricole, le rugby reste un marqueur, c'est un lien social. Les gens se retrouvent, puis ça permet surtout à des gens de générations différentes, ils parlent tous le même langage, quoi.
On va vous laisser vous entraîner.
On pousse bien, tu vas voir.
Christophe, vous avez 32 ans, vous êtes l'arrière de l'équipe, vous êtes blessé, pourtant vous allez jouer.
Ouais, parce que j'aime ça. Et puis bon, c'est pour le club, quoi. Le chirurgien me dit que j'ai un genou de 60 ans. Mais bon, voilà, avec un peu de pommade un peu, et l'envie va y passer dessus, quoi. Le rugby amateur, c'est du rugby de clocher, hein. La concurrence entre les villages passe par le rugby, quoi. Tous les villages ici ont vraiment une histoire marquée. Et si Eos se targue d'être la capitale de l'Armagnac, c'est cette identité-là qu'on essaie de conserver, quoi.
Kevin, vous l'attachement au village, vous le connaissez. Vous êtes au club depuis l'âge de 8 ans. Est-ce qu'à votre niveau, vous, les joueurs, vous êtes payés?
De plus en plus. Même si ça passe que par des frais de déplacement à notre niveau.
Comment ça marche, les frais de déplacement?
Si vous habitez à 40 km des Hauts et que vous venez, vous serez remboursé, voire plus, du nombre de kilomètres que vous avez fait. Ça peut varier entre 200 euros par mois et 400 ou 500 à notre niveau. Maintenant, ce que recherchent les gens, que ce soit en grande ville ou dans des villages comme nous ici, c'est ce qui vous reste à la fin du mois dans le porte-monnaie. Et on ne se retrouve plus en ville avec le collègue du match qui est électricien que l'on va faire bosser, etc. On a perdu un peu tout ce lien social et c'est ça qui est un peu dommage.
Malgré tout, Philippe, l'esprit du derby perdure.
On peut le dire comme ça, dimanche 15h30, stade de l'Armagnac, derby et Eos Condom, plongé de 29 secondes dans les tribunes avec les supporters.
On n'est pas gâté par les arbitres, honnêtement, parfois.
Hé, t'es rigolo, non, le bleu !
C'est la sortie du dimanche, il n'y a pas autre chose.
Oh putain !
Allez, pas droit, bleu !
Allez, jeune !
Les supporters adverses sont de l'autre côté de la tribune.
Oui, chez eux, ils n'ont pas été très sympas.
Vous n'êtes pas battus, quand même ?
Non !
Allez, allez, allez !
Non, mais bon, on défend nos valeurs.
Allez, saucisse ! Le thé saucisse, tu le découpes !
Au final, Philippe, est-ce que Eos a gagné?
Non, défaite 31-10, mais la troisième mi-temps en clubhouse a quand même été arrosée. Direction le comptoir, l'occasion de parler ruralité et politique.
On est content de vivre ici, on est bien. Les politiques, moi, j'en ai rien à prendre, que ce soit de droite ou de gauche.
C'est pour ça qu'ils ne viennent pas, les types. Ils font une réunion dans une cabine téléphonique, il y en a assez, quoi, ici.
Ça ne rentre pas dans les sujets de conversation, on n'a pas besoin.
Ici, on en a toujours assez. On a une maison, on est propriétaire. Voilà, la pêche du mois de mars au mois de septembre, la chasse du mois de septembre au mois de mars. C'est un cycle. Et entre-temps, il y a le rubis.
Derrière le bar, Bastien, 28 ans, sert des bières. Vous êtes d'accord, Bastien? Il y a tout ce qu'il faut ici?
Moi, je suis totalement d'accord parce que, bon, niveau travail, je pense qu'on n'a pas les problèmes des grandes villes. Les bouchons le matin. Personnellement, moi qui ai toujours vécu à Eos, on est bien fourni en tout. Que ce soit niveau travail où on a quand même 2 usines, 3 supermarchés. Le problème qu'on a, nous, ici, c'est un peu les études. Les jeunes partent aux études loin. Ils rentrent plus les week-ends. Ils arrivent à trouver du travail ou des copines dans les grandes villes, donc ils restent là-bas. Et du coup, c'est ce qui risque de poser problème d'ici 5 ou 6 ans, je pense.
Merci.
De rien. Merci.
Je vous laisse continuer à servir à boire.
Merci.
La cohésion sociale, elle existe aussi parfois en ville. La preuve à la muraille de Chine. 320 mètres de longueur sur 8 étages, la muraille de Chine, c'est un immeuble de Clermont-Ferrand, construit en 1961 et qui devrait être rasé d'ici 2020. Mais les habitants, plus de 350 familles, ne sont pas tous favorables, loin de là, à cette destruction. Ils redoutent que leur vivre ensemble à eux ne vole en éclats en même temps que les murs de leur immeuble. Et ils ont tendance à ne plus croire les hommes politiques qui, disent-ils, ne tiennent pas compte des souhaits de la population.
Vous voulez venir voir?
Venez voir.
C'est le feu de l'amour, hein?
Voilà.
Est-ce qu'on peut encore vous parler ou pas?
Oui. De toute manière, c'est toujours pareil. Alors, ils s'engueulent, ils se marient, ils divorcent. Puis voilà.
Vous suivez un petit peu la campagne électorale sur votre grande télé, là?
J'essaye, mais ils me font rire. On dirait des gamins de 5 ans qui se disputent.
Est-ce que vous avez...
Et comment voulez-vous qu'on aille voter, qui sont toujours en train de s'engueuler?
Vous avez toujours voté, vous, Dédé?
Oui.
Et là, vous allez voter?
Oui, je fais comme ma grand-mère. Même si c'est le dernier, elle fait « je prends le plus beau, je vote pour lui ». Il n'y en a aucun qui me plaît.
C'est qui le plus beau?
Je ne sais pas. Alors là...
Vous êtes arrivé quand, ici?
1973. Là, j'habitais dans l'F4, juste à la porte à côté, là. Et quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai pris celui-là. Je paye 265 € par mois. Je n'ai pas droit à la PL, à rien. Je dépasse un tout petit peu le plafond, on m'a dit. Mais bon, toute seule, j'y arrive. J'ai toujours entendu qu'ils allaient démolir la muraille. Puis elle est toujours là.
Vous croyez qu'elle va être détruite cette fois-ci?
On a encore le temps. On a des bons voisins, on se fait des amis. Si on va dans un autre truc, on ne sait pas sur qui on tombe.
Ça sert à quoi, les amis?
Se faire des petites confidences, des trucs comme ça. Ça fait 40 ans qu'on se connaît quand même. On se promenait tous les après-midi. Plus mon chien, on fait pisser Marley.
Alors Marley, comment il va, chef?
Vous, vous êtes arrivé quand?
Moi, j'ai presque 4 ans que je suis là, à la muraille. Ouais. J'habite avec ma femme et ma petite fille, et c'est trop petite pour moi. Surtout pour ma fille, parce que l'amiante, on a du pinaise, c'est pas bon.
Vous avez fait une demande pour trouver ailleurs?
Ouais, j'ai fait une demande, j'ai presque 1 an et demi que je fais la demande et j'ai rien.
Il va falloir reloger en tout 350 familles. Certains, Mathilde, espéraient une rénovation en profondeur du bâtiment.
Trop cher, répond la mairie. Le terrain, vu plongeante sur le centre-ville, a de quoi attirer les promoteurs.
Voilà, on a tout ici. Notre cathédrale, elle bouge pas, elle est impeccable. Le puits de Dôme, on l'a sauvé. On est bien, on a une identité ici. Il y a beaucoup moins d'actes de violence qu'on pourrait le croire, bien moins.
Le bâti n'est pas en si bon état que ça, en fait.
Non, il n'est pas en bon état du tout, quoi. C'est un établissement à désamianter, d'urgence.
Chef, vous avez votre carte d'électeur, vous venez de la recevoir à l'instant, là.
Exactement. C'est mon devoir, oui. Même si on a l'impression que ça compte pas, ça compte énormément. Si on s'est trompé de candidat et que c'est nous comment voter pour, on s'en prendra que soi-même.
T'as vu, au vin, ils remettent des portes partout.
Au vin? Des fenêtres, des portes neuves?
Ouais.
J'étais pas au courant. Mais là, on fait un constat hyper simple. Hein. On est à l'extrémité du bâtiment du côté numéro 2, là. Le béton, il est pété. Ils refont pas le béton. Hein. Ils mettent juste une résine pour éviter que ça aille trop loin. Mais il y a un trou béant. Concrètement, quel est l'intérêt de tout démolir et de refaire? Aucun. Ici, le fait de conserver effectivement les logements sociaux au cœur de la ville, c'est hyper important. C'est ça qui fait la véritable mixité.
En fait, c'est vraiment une question de respect des habitants, qu'on respecte s'ils veulent rester dans le quartier.
C'est hyper important qu'on leur donne le choix. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas du tout faite aujourd'hui. On est dans un état de fait imposé.
C'est-à-dire que les gens, en plus, on les entretient dans une espèce de paternalisme. Plutôt que de dire de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous pensez ? En fait, on monte des associations et des structures pour penser à la place des gens. On annihile toute citoyenneté dans les quartiers.
Quand on a eu la première intervention du maire qui a osé faire la comparaison de la mur et des chines par rapport à un rempart qu'il fallait détruire parce que c'était un bouclier sur le reste de la ville. Je dis, mais c'était quoi cette foutaise en barre, quoi, sans mentir ? Quelle est l'analogie qu'on peut faire ouvertement devant des citoyens ? Mais le citoyen a aussi des droits. Il y a des députés qui l'ont ouvertement dit. Le peuple a des droits, c'est écrit dans les textes de loi. Il est capable de révoquer beaucoup de choses, mais il ne le fait pas parce qu'il n'est pas au courant.
On reste dans le domaine immobilier avec une tentative. À Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, une résidence privée en copropriété a été construite au cœur de la cité sensible des Grésillons. L'idée de base du projet, c'est de favoriser la mixité sociale afin d'améliorer les relations entre habitants. Idée a priori séduisante, mais mise en œuvre ici avec des fortunes diverses, comme le montre ce reportage de Claire Chaudière.
C'est génial, le petit côté village là, ouais, de la résidence.
Hein.
Vous me faites une présentation de votre frigo ? C'est quoi ces dates ?
Il y a les anniversaires des enfants de la résidence, les enfants des voisins. Belmondo, Yanis, Isra, Maëlan, Jamy et Soumaya. Le mélange de religions, le mélange de populations fait qu'il y a une richesse qu'il n'y a pas dans d'autres quartiers. Ah, moi, je suis catholique, je suis pratiquante. Mon fils est dans une école religieuse. Privé. Pourquoi je n'ai pas mis mon fils dans le public ? Parce que je trouve que plus ça va et plus il y a d'absentéisme par rapport aux professeurs, ça me dérange.
Bonjour.
Ah, c'est mon mari.
Voilà. Je m'en vais. Bâtiment, direction le troisième étage. Est-ce que je peux regarder derrière les rideaux, là, la vue que vous avez ?
Voilà, vous avez la vue sur toute la résidence, les jardins, les toitures et la cité blanche. C'était la zone, et aujourd'hui, ce n'est plus la zone. Et ça mélange entre les anciens Genevillois et les nouveaux. Moi, ce qui est important, c'est la justice sociale. Tout le monde soit traité de la même manière, qu'il soit d'origine maghrébine, ou asiatique, ou normande, ou alsacien. Il y a un blocage dans la société par rapport à ça. Oui, c'est un des facteurs qui m'a poussé à créer ma boîte. Je ne le cache pas. Quand on vous bloque au niveau formation, et que vous voyez la personne qui est incompétente à côté de vous, elle s'appelle Jean-Baptiste quelque chose, il a toutes les formations, des augmentations automatiques. Moi, c'était plus possible.
Vous avez des salariés ?
Oui, j'en ai 3.
Ça vous fait sourire ?
Oui, je suis content. Je participe à l'évolution de la France, j'ai créé de l'emploi.
Bon courage.
Merci. Retour au niveau zéro. Tout au fond de la résidence, il y a, m'a-t-on dit, une famille qui serait sur le départ.
Ça y est, on a déjà visité des maisons, on va partir. C'est vrai qu'on nous avait dit, vous allez voir, on fait des choses pour qu'il y ait une mixité sociale qui s'installe. Et puis, ben, on n'a absolument pas ce sentiment-là. Non, ce qui nous embête ici, surtout, c'est le communautarisme. Mes enfants, enfin, surtout l'aîné, on lui a dit des choses à l'école primaire, mais qu'il ne comprenait même pas. Ah bah oui, tu vas aller en enfer parce que tu manges du porc. Et puis, bah, y a la petite cerise sur le gâteau, des gens qui respectent pas la tranquillité des autres. Finalement, se faire côtoyer une résidence comme ça, de propriétaire à côté, d'une cité HLM, ça pose problème. Parce qu'en fait, ils sont persuadés qu'on est des gros bourgeois pétés de thunes. Et du coup, ils nous aiment pas. Quand on voit le monde dans lequel on est, le manque de tolérance, le chômage, je suis très pessimiste. Mais bon, je vais voter à tous les scrutins, tous. Cette année, ça risque d'être un peu chaud les marrons quand même. Parce qu'en plus, quand on écoute les gens... Les gens sont encore plus méfiants qu'en 2002.
Une méfiance et des crispations parfois pesantes à l'échelle du quartier tout entier, Claire.
Oui, comme en témoigne cet architecte franco-marocain Ali, voisin de cette copropriété privée, un climat de suspicion réciproque en quelque sorte, alimenté par un climat politique plus général selon lui.
Même le bonjour, il est timide, hein. Limite, il n'existe pas. Personne n'a envie de découvrir l'autre. Et on reste fixé sur des clichés, parce qu'actuellement, le débat va dans tous les sens. Le débat sur l'intégration, moi, mon intégration, je la définis à ma façon. Du moment où je vis dans un pays, je respecte les lois, les us et coutumes de ce pays, je travaille, j'ai un logement, je suis intégré. Est-ce que c'est le manque d'intégration, le fait de garder, pour une étrangère, de garder son foulard, ou c'est la liberté individuelle ? C'est un débat qui existe en France depuis des années et on n'a toujours pas tranché.
Vous aimeriez que le prochain président le tranche ?
Je pense qu'il le fera jamais. Ils vont toujours chercher le compromis, en fait. Ça aussi, c'est un problème. Le chef de l'État n'a pas cette capacité de trancher, de décider.
On termine cette immersion dans la vie quotidienne des Français à Cayenne. La Guyane s'est embrasée au début du printemps. Dans ce qui est le plus vaste des départements français, grand comme deux fois la Suisse, mais peuplé de 250 000 habitants seulement, la santé, l'éducation et la sécurité sont des préoccupations de tous les jours. Avec là encore le sentiment d'être des oubliés de la République. Au plus fort du mouvement, les contestataires avaient lancé un appel au boycott de l'élection présidentielle. Philippe Randé a pu prendre la mesure de l'exaspération en passant 24 heures sur le barrage du rond-point de la Crique Fouillée qui bloquait la circulation à la sortie de la ville. Rencontre avec Francesca, l'un des piliers du barrage.
Dans 50 minutes, vous avez un chocolat créole. Alors, je peux vous montrer. Hein. Vous avez de la cannelle, du lait, le chocolat en bâton. On essaie en tout cas, lors de cette période de grève, de consommer local.
On parle beaucoup politique ici.
Chacun donne son avis, les passants ils s'arrêtent, ils discutent avec nous.
Ce qui vous inquiète, vous personnellement, c'est surtout la délinquance.
Il y a deux semaines de ça, j'ai été braquée, ça s'est passé, il était 14h30. Lorsqu'il m'a agressée, il y avait ma petite fille dans le véhicule. Ma petite fille, elle criait. J'ai dû attraper le voleur et c'est de là qu'il a sorti son arme. Et qui m'a braqué avec l'arme, j'ai dû le lâcher, bien sûr.
L'année dernière, ici en Guyane, il y a eu 42 homicides.
Oui, vous imaginez que chaque fois qu'on rentre dans notre véhicule, nous avons les vitres montées, les portes bloquées. Pour aller au distributeur, avant d'y aller, on regarde à droite et à gauche. C'est invivable. J'espère que de l'autre côté, ils vont nous entendre aussi. Hein, nous sommes Français, il y a bientôt les élections.
L'autre grande préoccupation des Guyanais, c'est la santé. Où est-ce que vous me conseillez d'aller sur le rond-point pour parler de santé?
L'attente juste en face.
Merci.
C'est moi.
Il faut descendre, éteindre le moteur et marcher en solidarité, merci.
Pour atteindre la tente en face, il faut zigzaguer au milieu des conducteurs de deux roues qui sont obligés de couper leur moteur. Drôle de balai que ces dizaines de personnes qui marchent ici autour de nous, casque sur la tête à côté de leur engin. Martine, on vous oblige à descendre de la moto?
Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas foncer dessus. Bon, moi personnellement, je pense que là, il faut trouver une autre solution. C'est se tirer une balle dans le pied quelque part. Au revoir.
Et pendant que Martine repart en direction de Kourou, Patrice, lui, joue au domino dans une tente, juste à côté de quelques femmes qui font cuire du poulet sur un barbecue. Patrice, on vient de parler de délinquance avec Francesca. Vous, votre cauchemar, ce sont les hôpitaux. Vous y avez vécu une expérience très douloureuse.
Personnellement, avec ma fille, j'ai dû partir dans l'Hexagone pour pouvoir la soigner. Il n'y avait pas les moyens pour faire un diagnostic, vous imaginez. Vous êtes tranquillement chez vous, en train de dormir. Et à 3h du matin, vous entendez votre enfant qui pleure parce qu'elle a mal. Et ça fait 3 nuits que vous allez aux urgences, on vous donne des antidouleurs, mais personne ne trouve. À la fin, parce que vous avez décidé, merci Seigneur, moi je travaille, j'ai cette chance de partir avec mon enfant dans l'Hexagone. Un professeur me dit, votre fille sera hospitalisée pendant 1 an. La petite, elle se met à pleurer parce qu'elle sera séparée de ses parents. Vous savez quel âge elle avait, ma fille, à cette époque? 12 ans.
Elle avait quoi?
Elle avait un problème à la hanche, il fallait juste des tractions. Mais ce traitement, il faut qu'il soit en continu. Nous n'avons pas d'établissement pour pouvoir mettre en place ce genre de traitement.
Si vous n'aviez pas été en métropole, où serait votre fille aujourd'hui?
À l'heure actuelle, ma fille, elle serait en chaise roulante, handicapée. Vous croyez qu'on est censé, en tant qu'être humain, accepter cette fatalité? Non.
Merci.
Je vous en prie.
Je vais vous laisser jouer au domino. Pendant que Patrice joue au domino, Carole et Nadia, elles sont en train de parler politique. Est-ce que l'élection présidentielle vous intéresse?
On ne s'occupe pas de nous, pourquoi on va s'occuper d'eux? J'ai 49 ans, je n'ai jamais eu l'occasion de connaître un président qui veut faire quelque chose pour la Guyane.
Madame, vous êtes d'accord? Vous savez pour qui vous allez voter?
Pour personne.
Vous demandez l'aide du gouvernement et vous ne croyez pas en la politique?
On est obligé parce qu'on est dans un système qui est dirigé par eux.
On n'a plus confiance, c'est fini là, la confiance, ça devient un dégoût.
Il n'y a pas un candidat qui peut dire qu'il connaît la Guyane. C'est pas en venant circuler en hélicoptère, ça on n'en a rien à foutre. C'est pas en allant voir la base spatiale qui va dire qu'il connaît la Guyane. Est-ce qu'il est venu là? Qui est venu là aujourd'hui?
Thank you.
côté.
Fin de cette émission spéciale durant laquelle vous avez pu écouter ou réécouter les reportages de Claire Chaudière, Mathilde Dehimy, Béatrice Duguay, Delphine Evenou, Géraldine Allot et Philippe Randé. L'émission a été réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Lucille Valéry, mixage Jean-Louis Deloncle. Tous ces reportages que vous venez d'entendre font partie d'une série Allons en France, à retrouver en intégralité sur franceinter.fr. À la semaine prochaine avec au sommaire un reportage consacré à ce premier tour de la présidentielle.